Et aujourd'hui, on va aborder la question de la souffrance. Comment peut-on croire en Dieu lorsque nous voyons tant de souffrance, lorsque nous vivons tant de souffrance? Alors, comment peut-on croire? C'est au fond l'idée de penser, de réfléchir. Est-il au fond finalement raisonnable de croire en Dieu? Quand j'ai fait mes 3 jours, vous savez, pour l'armée, les personnes m'ont dit, quand tu rentres à l'armée, tu laisses ton cerveau à l'entrée et tu le reprends en partant. C'est un tout petit peu la démarche que je vous invite à faire ce matin. Non pas de laisser notre cerveau à la sortie, mais au contraire de l'utiliser, de réfléchir. Et puis de penser la foi un petit peu après. Élodie nous a parlé d'entendre Dieu, d'écouter Dieu. Et s'il y a bien un moment dans nos vies, lorsque nous allumons la radio, lorsque nous allumons la télé, s'il y a bien un moment que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas ces moments-là? Ces moments de souffrance, ces moments de questionnement. On a des fois parfois envie de dire « Mais Dieu, tu fais quoi là ? Implique-toi un peu si tu existes. » J'aimerais vous lire quelques florilèges de textes. Jusque à quand, ô Dieu, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi ? À la violence sans que tu nous délivres ? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices ? Peux-tu rester indifférent à nos tourments ? Je ne vois devant moi que ravages et violences. Il y a des querelles et des conflits surgissent. Autre parole, autre réaction, je suis dégoûté de ma vie. Autre parole, pourquoi donc donne-t-il la lumière aux pauvres malheureux ? Pourquoi donner la vie aux hommes accablés ? Pourquoi ne suis-je donc pas mort dans le sein de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant des flancs ? Et enfin, une parole tout aussi terrible, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parole terrible, n'est-ce pas ? Mais parole qui se trouve dans la Bible. Et ô combien c'est rassurant de savoir que Dieu accueille ce type de parole. Voici donc des personnes qui sont affectées par la souffrance. Et qui ne s'est pas ému assez récemment de faire cette photo du petit Elan sur la plage ? Qui ne s'est pas indigné ? Et la réaction est assez spontanée, au fond. S'il y a une divinité, s'il y a un Dieu, alors mettons-le sur le banc des accusés. Si tu existes, Dieu, tu pourrais empêcher tout ce genre de choses. Parce qu'au fond, on implique derrière ça que Dieu est outré par la souffrance du monde et qu'il est aussi capable de résoudre le problème. Et nous réalisons combien le problème de la souffrance est beaucoup plus vaste. Et nous sommes un peu coincés face à cette question. Parce qu'au fond, soit Dieu est Dieu, soit le mal existe, soit le mal n'existe pas, soit Dieu n'existe pas, on est en train de torturer nos esprits. Parce que si Dieu existe, il est forcément bon, forcément tout-puissant, parce que sinon il ne serait pas Dieu. Et le mal, force est bien de constater qu'il est là présent. Nous-mêmes vivons pareille souffrance. Alors, chers amis, je ne prétends pas résoudre toutes ces questions en 20 ou 25 minutes. Des questions qui ont agité bien des théologiens, des philosophes, des penseurs. Mais simplement, réfléchir, lancer quelques pistes de réflexion. Car je sais que derrière ces questions de la souffrance, il y a des dimensions affectives, des souffrances. C'est aussi pour ça que j'ai abandonné la foi quand j'avais 12 ans. Mais le Seigneur peut ouvrir une brèche, nous amener à avancer. Mais avant ça, je voudrais juste une petite précision, Vincent, si tu veux bien. Petite précision de vocabulaire, de pédagogie. Vous voyez ce que c'est que ce truc-là ? Une plaque chauffante. Plaque chauffante. Alors, si elle est allumée et que vous la touchez, c'est arrivé à Suzanne une fois avec un appareil à crêpes, en principe, ça brûle, n'est-ce pas ? Vous pouvez ressentir la brûlure, mais savez-vous pourquoi ça brûle? Pourquoi une plaque? Alors vous allez me dire, oui, elle est allumée, ça va de soi. Ça chauffe, donc ça brûle. Oui, mais pourquoi la plaque chauffe-t-elle? Alors vous allez voir peut-être le vendeur de Darty et lui dire, mais c'est super ta plaque chauffante. Elle chauffe bien, mais elle brûle aussi. Pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer quel est le principe qui fait qu'une plaque chauffante chauffe? Alors le vendeur va vous donner quelques caractéristiques, quelques éléments. Mais il va dire, moi j'en sais pas plus. Nous, vous savez, on ne fait que distribuer et que vendre ces plaques chauffantes. Il faudrait aller voir les fournisseurs. Alors vous allez aller voir les fournisseurs, et pareil, vous allez leur demander, mais au fond, comment ça se fait que votre plaque chauffante chauffe? Alors ils vont vous expliquer comment ils assemblent tel et tel élément. Et vous allez après dire, oui, mais comment ça se fait que chaque élément rassemblé ensemble chauffe et peut brûler? Oh ben ça, je sais pas, il faudrait demander ça aux ingénieurs. Alors vous allez demander aux ingénieurs, et les ingénieurs vont dire, nous, vous savez, on a les éléments, on a les connaissances sur chaque élément, on les assemble, mais il faudrait aller voir chaque fournisseur de chaque pièce, n'est-ce pas? Alors vous allez voir chaque fournisseur de chaque pièce et vous leur posez la question, etc., etc. Tout ça pour dire quoi? Qu'au fond, la souffrance, la brûlure, c'est un problème, c'est un ressenti. Mais la vraie question, le vrai problème, c'est le mal qui est à la source de cette souffrance. Et du coup, notre problème est face à nous. Si Dieu existe, s'il existe et c'est qu'il est bon et il est puis tout puissant, et s'il est bon et tout puissant, pourquoi le mal existe? Et s'il est bon et tout puissant, pourquoi permet-il que le mal existe? Alors, pour résoudre le problème, la première solution, on élimine un des problèmes. Éliminons donc le premier problème et commençons par Dieu. Imaginons que Dieu n'existe pas. Au fond, à la question comment un Dieu bon et tout-puissant permet le mal, on résout la question en disant, au fond, Dieu n'existe pas. Le mal est là. Mais bon, ça pose quand même des problèmes, des questions. La première, c'est comment expliquer l'existence même de notre réaction, de notre question. Est-ce que c'est la religion, la culture, notre éducation qui fait que, dès qu'on vit une souffrance, on a tendance à se tourner vers quelqu'un de plus haut, une divinité, pour lui demander des comptes? Et puis, c'est vrai, si Dieu n'existe pas, alors la question évoquée ne se pose plus. Et puis, chacun peut vivre un peu, au fond, avec ses idéaux de justice, d'amour du prochain, d'équité. Nous vivons de façon éthique, moralement correcte. Mais une question surgit alors. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui va nous dire à chacun, ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que ce sont les médias? Est-ce que c'est l'État? Je vous ai mis cette photo, n'est-ce pas? L'esclavage, Auschwitz, tout ça, c'est des choses qui étaient bien pour l'État, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Google, ou Google, comme dit mon fils, qui va nous dire ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que c'est le nombre de likes sur Facebook? Le nombre de tweets? Et c'est vrai que les comités d'éthique, ceux qui essayent de trancher sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, ont affaire à conjuguer un certain nombre de valeurs relatives. Au fond, si Dieu n'existe pas, il n'y a plus de valeur absolue. Ce qui est bien pour moi ne l'est pas forcément pour toi, et ce qui est mal pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Le risque est alors que chacun forge ses propres valeurs. On relativise un peu toutes les choses. L'homme est délaissé à ses propres valeurs. Jean-Paul Sartre disait ceci, vous savez, le philosophe athée. Si Dieu n'existe pas, et par conséquent l'homme est délaissé, parce qu'il ne trouve en lui, ni hors de lui, aucune possibilité de s'accrocher à des valeurs. Les valeurs ne sont pas sérieuses, puisque vous les choisissez. Et si j'ai supprimé Dieu le Père, il faut donc quelqu'un pour inventer des valeurs. Et il continue, si Dieu n'existait pas, au fond, du coup, tout est permis. Il n'y a plus de bien et de mal. Le mal, le bien, tout ça, c'est relatif. Au fond, c'est ce qui compte, c'est vraiment d'être sincère. On le voit, on le dit des fois. Hein. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais ce qui compte, c'est d'être sincère dans ce que tu fais. Ouais, mais Hitler, n'était-il pas sincère dans ce qu'il faisait? Dans ce qu'il croyait être bon? Dans sa vision de l'histoire? Je vais ouvrir des petits sujets un peu d'éthique. L'interruption volontaire de grossesse, au nom du droit de disposer de son propre corps. La peine de mort, par souci de justice. Le mariage entre personnes de même sexe, au nom de l'égalité et de l'amour. Je ne tranche pas ces questions-là, hein. C'est simplement pour vous donner des exemples. Le tout est permis, n'est-ce pas? Et du coup, avec ce tout est permis, on est un peu coincé entre la vérité et la liberté. Au nom de quoi les conceptions du bien et du mal que nous avons chacun est-il plus légitime que celui, que les valeurs de l'autre? Le mal n'est finalement plus un mal en soi, c'est un mal relatif. Et du coup, se pose une autre question. Au nom de quoi nous aurions le droit, du coup, d'aller dire à Adolf Hitler, Pol Pot, Staline, que ce qu'ils ont fait est mal? Après tout, c'est vrai. Pour eux, c'était bien. Pour nous, c'est mal, mais il n'y a personne pour trancher, au fond. Alors, si Dieu n'existe pas, le bien comme le mal deviennent relatifs. Et si Dieu n'existe pas, quel est le récit alternatif? Quel est l'autre sens possible de l'histoire de l'humanité? C'est le mécanisme de l'évolution, des sciences naturelles. Le fort remporte sur le faible. Et du coup, le mal, la mort, la souffrance, etc., font partie d'espèces de cycles de l'évolution. Je ne suis pas là en train de distinguer création et évolution, hein, je vous rassure. Simplement pour vous expliquer le méta-récit alternatif. Alors du coup, la question c'est, si on est inscrit dans cette histoire de l'humanité, si au fond on est en train d'évoluer tranquillement, en écrasant le plus faible, et nous qui sommes forts, on réussit. D'ailleurs, c'est ce que l'on retrouve et ce que l'on voit souvent autour de nous, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, pourquoi s'indigne-t-on? On devrait se réjouir, au fond, on est en train d'évoluer, les amis! Yahoo! Les plus forts résistent, et si on est encore vivant, c'est qu'on est les plus forts! Les plus faibles, n'en parlons pas. Au vu de tous ces problèmes, de tous ces questionnements, l'indignation face au mal, face à la souffrance, prouve bien qu'il y a quelque chose extérieur à nous qui provoque en nous cette révolte. Parce qu'effectivement, nous sommes tous, presque tous, indignés par les mêmes choses. Par la mort d'un enfant. Qui n'est pas attristé par la mort d'un enfant? Par une catastrophe naturelle? Qui n'est pas indigné, en colère, lorsqu'il voit des corps décharnés dans des camps? D'où vient cette indignation? Force est donc de constater que nier l'existence de Dieu ne résout pas forcément le problème. Il en rajoute peut-être même. Alors, on supprime le mal, on supprime Dieu, ça ne marche pas vraiment. On va se pencher sur quel Dieu pourrait être existant face à ce mal. Et du coup, on a trois possibilités. Passons à la suivante. Dieu est face au mal. Soit Dieu veut ôter le mal de ce monde parce qu'il est bon. Il est amour, on l'a chanté plein de fois. Mais il ne peut pas. On aboutit donc à un Dieu impuissant. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup porté après la Seconde Guerre mondiale. Cette pensée, au fond, que Dieu ne sait pas tout, qu'il évolue, qu'il nous accompagne. Il ne peut pas tout, malheureusement, mais il vit avec nous. C'est gentil, un Dieu comme ça. Mais à quoi ça sert vraiment? Soit Dieu peut ôter le mal, mais il ne le veut pas. Alors il est tout puissant, il peut tout faire d'un tour de main. mais il est méchant. Alors du coup, quelle serait la solution si Dieu peut tout enlever? Le mal, la souffrance, mais qu'il est méchant. Quelle est la solution pour éradiquer le mal? La première, ça serait d'éradiquer les personnes qui le font. Et qui d'entre nous ne fait pas le mal? La seconde, ça serait peut-être même d'anéantir toute la création, parce que les catastrophes naturelles viennent dans notre monde. Troisième solution, soit Dieu ne peut ni ôter le mal, ni ne le veut. Il est ni bon, ni tout-puissant. Excusez-moi, mais peut-on encore appeler un tel Dieu, Dieu ? Alors, on a tenté de trouver une solution du côté de Dieu. Essayons de trouver maintenant une solution autour du mal. Au fond, on pourrait essayer de garder l'idée que Dieu est bon et tout-puissant, et puis essayer de voir que le mal, bon, on peut conjuguer ça avec ça, au fond. On essaye de relativiser. Et on pourrait se dire, par exemple, non mais tu sais, le mal, c'est une illusion d'optique. Tu n'arrives pas à voir derrière, tu n'as pas assez de sagesse, de recul, pour comprendre que le monde va bien. Tout va bien. Vous savez le sketch de Danny Boone, là. Je suis gay, tout me plaît, je vais bien, tout va bien. Autre possibilité, on dirait au fond, le mal existe, mais il est là pour nous aider, pour nous conduire vers plus de perfection. Le mal serait donc nécessaire, au fond. Une autre façon serait de dire que le mal est voulu par Dieu. Dans sa grande sagesse, il veut le mal, mais nous ne savons pas pourquoi. On peut voir le résultat, c'est vrai, souvent, vous savez, on illustre cet élément parfois de ce que nous vivons comme souffrance avec ce tapis. On dit on vit des épreuves comme ces nœuds du tapis. Et un jour, quand on sera face à Dieu, on verra le dos et on s'émerveillera devant ce beau tapis qu'a été notre vie. Oui, mais dans ces cas-là, Dieu permet ce que nous vivons. Il ne le veut pas forcément. On pourrait dire aussi, Dieu s'est au fond rétracté un peu en lui-même. Il est tellement gentil, et vous savez, il n'y a pas d'amour sans liberté, alors il a laissé au fond l'homme libre, et puis l'homme a fait un peu ce qu'il a voulu, et puis le mal est entré un petit peu comme ça. Le mal, du coup, n'est plus quelque chose d'assez grave, mais finalement le résultat d'une petite désobéissance sympathique d'un homme. Alors tout ça, c'est bien, mais que penser des catastrophes naturelles? Que penser et que dire à une personne qui a perdu son enfant, ses parents, son fils, sa fille? Est-ce qu'on va lui dire ça? Oh, tu sais, le mal, c'est relatif. Le mal, c'est pour ton plus grand bien, au fond. Réjouis-toi! Réjouis-toi! Tu vas devenir meilleur par ce mal que tu as vécu. Chers amis, j'aurais invité cette personne à faire un petit peu de cours de psychologie, n'est-ce pas? Pour terminer, on voit qu'on est face à cette question. Dieu bon tout-puissant, le mal existe. Comment arriver à conjuguer tout ça? Avec notre raison, nous avons quand même des difficultés. Difficultés à mettre Dieu bon et tout-puissant dans une boîte et difficultés à rétrécir le mal. Je voudrais juste vous présenter ce que nous présente la Bible, ce qu'il nous laisse comme élément de réponse. Je crois que la Bible nous appelle au réalisme, à l'humilité et à l'espérance. Au réalisme, parce que le mal est mal dans la Bible. Il est injustifiable. D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment de définition de son origine, du sens. Le mal, dans la Bible, est un scandale. C'est un scandale. Et c'est pour ça qu'on peut entendre même des cris de souffrance dans la Bible. Et moi, je trouve ça super rassurant, franchement, d'avoir une Bible dans laquelle Dieu a permis que des personnes s'expriment devant lui pour exprimer leur souffrance. Si c'était un livre inspiré par Dieu, n'est-ce pas? Où tout serait beau, tout serait joyeux. excusez-moi, mais moi je le laisserai de côté. Dans le rayon, conte de fées. Et non, le mal est mal. Et toutes nos tentatives de mettre le mal en boîte seraient au fond une façon de l'amoindrir, n'est-ce pas ? Ah, si on pouvait comprendre le mal. Si on pouvait comprendre qu'au fond, Hitler n'y est pour rien, le pauvre monsieur. Il était autrichien, il avait vécu le traité de Versailles, il voulait être peintre, mais on lui a refusé. Au fond, ce qu'il a fait, c'est pas de sa faute. Il subit. Mais dans ces cas-là, on est en train de faire une grave erreur, puisque le mal ne devient plus un scandale. Henri Blocher, un théologien, disait ceci. Comprendre le mal, si on arrivait à le contourner, à expliquer avec notre esprit le mal et son origine, comprendre le mal serait au fond comprendre que le mal n'est pas mauvais. Le mal est mal, même si Dieu peut le transformer en bien. Mais Dieu ne veut jamais le mal. La Bible nous appelle à l'humilité. Parce que c'est vrai que nous avons pensé, pendant toute cette réflexion, nous avons pensé comme si on était presque au-dessus de Dieu, comme si nous pouvions regarder de l'extérieur ce qu'il se passe. Mais pardonnez-moi, le problème c'est qu'on est empêtré dans ce mal. Aussi, notre réflexion est quelque peu atténuée. Parfois on entend dire « si Dieu est bon et puissant », il ne permettrait pas la survenue du mal et qu'il soit inutile, n'est-ce pas ? On voudrait que tout ce qui se passe soit utile. Et le mal deviendrait moins mal si on arrivait à trouver une vocation utile, presque positive, au mal. Mais qui sommes-nous pour nous mettre à la place de Dieu ? Qui sommes-nous pour pouvoir, avec nos esprits limités, imaginer même ce que Dieu peut permettre ou pas. Qui sommes-nous pour traiter d'égal égal à égal avec Dieu ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Et puis, une autre question se pose. Autre question qui nous pousse un tout petit peu à l'humilité. Si on considère que Dieu est grand, que Dieu est élevé, que Dieu est au-dessus de nous, et que du coup, il pourrait permettre d'arrêter le mal, du même coup, ne pourrait-on pas imaginer que ce même Dieu ait d'autres plans que les nôtres ? Pourquoi donc Dieu permet-il encore au mal de régner ? N'aurait-il pas d'autres plans ? Et c'est là qu'intervient le dernier appel de la Bible. La Bible nous appelle à l'espérance. Pourquoi donc Dieu laisse-t-il le mal ? S'il est bon et tout-puissant, nous l'avons vu tout à l'heure, pourquoi le permet-il ? Nous nous rendons compte que nous sommes bien limités face à cette question. Nous avons du mal à trouver un cadre. Et il serait peut-être simpliste d'y arriver. Ne serait-il pas trop simpliste d'y arriver à mettre Dieu dans des boîtes, le mal dans une autre boîte, et puis d'arriver à coordonner tout ça ? La Bible nous appelle à l'espérance. Au fond, qu'est-ce qui est le plus important ? Comprendre l'origine d'un problème ou de trouver la solution pour y remédier ? Peut-être que vous allez me dire les deux. Parfois, il faut trouver l'origine pour avoir la solution. Mais si votre plaque chauffante dysfonctionne dans votre camping, vous êtes tranquillement en train de camper, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez voir Darty. Darty va renvoyer à son fournisseur va renvoyer au fournisseur, etc., etc. Car en fait, le Dieu de la Bible a conjugué tout ça. Il est bon et tout-puissant. Comment a-t-il résolu le problème du mal sur un simple morceau de bois à la croix? Car dans sa toute-puissance, il s'est incarné. Il est venu parmi nous vivre les plus grandes difficultés qu'un homme peut vivre. Vivre la faim, la soif, le désespoir, le pourquoi m'as-tu abandonné, la peur de la mort. Pourquoi Dieu permet-il que le mal et la souffrance continuent d'exister? Pourquoi Dieu le permet? Lorsqu'on regarde à la croix, à ce petit morceau de bois, nous ne connaissons pas la réponse ultime. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu ne nous est pas indifférent. Bien plus, Dieu a pris sur lui notre tristesse, notre souffrance. Dieu nous aime, à tel point qu'il a accepté, dans sa toute-puissance et par bonté, de venir parmi nous, parmi ces créatures peu aimables, pour nous délivrer, pour nous sauver de ce mal, pour qu'un jour, ce mal soit vaincu de façon définitive et que nous puissions vivre le monde tel que nous l'aspirons à vivre. Espérance, espérance de la victoire sur le mal, espérance et consolation, car ce Dieu que nous prions, que nous chantons, est un Dieu, pas un père tyrannique, un juste juge, n'est-ce pas, en train de compter les points, ou un vieux Père Noël sénile sur son nuage. Ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, c'est ce Jésus qui est venu partager notre humanité. Un amour de Dieu, nous l'avons chanté. Le mal qui nous touche doit nous révolter. C'est saint. On a le droit de se poser ces questions. Du pourquoi? Jusqu'à quand? Et Dieu, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est bon, accueille nos paroles, notre révolte. Et il nous invite à aller plus loin, à penser avec notre raison les choses, mais aussi par la foi, nous abandonner dans ses bras d'amour. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois Dieu tout-puissant, bon, et Dieu fait homme. Il comprend parfaitement ce que nous vivons, les souffrances, la séparation, le mal. Il est tout-puissant, il a vaincu le mal. Et un jour, il n'y aura plus ni souffrance, ni larmes, ni deuil. Voici l'espérance de la Bible. En attendant, il nous faut cheminer, marcher dans ce monde. Mais dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Et j'aimerais terminer cette prédication par un poème que vous connaissez certainement. Des pas sur le sable. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie de Jésus. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu à chaque épisode de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre celle de Jésus. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. Jésus, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. Et j'ai accepté de cheminer avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment, justement au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit. Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime tant. Je ne t'aurai jamais abandonné. Pas même une minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve, de souffrance, de peur, eh bien, c'était moi qui te portais. Amen.